Alors bonjour à chacun, chacune, et je suis ravie d'être parmi vous ce matin et de revoir les visages connus de mon enfance, de mon adolescence, mais aussi de vous voir, vous, les nouveaux, que je connais pas, qui ont rejoint cette église. Et gloire à Dieu parce que voilà, il bâtit son église et il nous a rassemblés ce matin pour le louer et ouvrir la parole, sa parole ensemble. Alors je vous propose de méditer ce matin du coup le psaume 103. Donc c'est un texte de l'Ancien Testament, le psaume 103 a été écrit par David. Et dans ce psaume, j'ai pensé qu'en début d'année scolaire, nous avons besoin un petit peu d'être encouragés, de nous rappeler les bienfaits de Dieu. Et vous allez pouvoir compter qu'il y a au moins 7 bienfaits de Dieu dans ce psaume, que nous allons voir. Et c'est un psaume aussi qui nous exhorte à nous rappeler les bienfaits de Dieu. Que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe, c'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour, et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel intervient pour redresser les torts et il défend les droits de tous les opprimés. Il a manifesté ses desseins à Moïse et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est plein de pitié et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse. Et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse pour ceux qui le révèrent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il se rappelle bien que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe, à la fleur des champs. La voici qui fleurit, qu'un vent souffle dessus, la voilà disparue. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Éternel, ton amour est là, depuis toujours et durera toujours pour ceux qui te révèrent. Ta loyauté demeure à l'égard des enfants de leurs enfants. Elle est pour ceux qui restent fidèles à ton alliance, pour ceux qui se souviennent de tes commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône. Il est le roi, le maître de l'univers entier. Louez donc l'Éternel. Vous tous ces anges, vaillants et forts, qui faites ce qu'il vous dit dès qu'il vous le demande. Oui, louez l'Éternel, vous toutes ces armées célestes, vous qui êtes à son service et exécutez sa volonté. Oui, louez l'Éternel, toutes ces créatures, partout où il gouverne, que tout mon être loue l'Éternel. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, maintenant que nous ouvrons ta parole, que nous continuons à l'ouvrir, nous te demandons encore que ton esprit nous assiste pour comprendre, être nourri de cette parole, être enseigné, repris, exhorté, que tu viennes nous rassasier. Fais peut-être silence dans nos cœurs, nous soyons tout à toi et que nous soyons à ton écoute, les yeux, les oreilles grandes ouvertes, comme tu le rappelles souvent. Au nom de Jésus, amen. La sagesse populaire, nous encourage souvent à voir la vie du bon côté. Et vous connaissez l'histoire du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Si on regarde le verre à moitié vide, ça veut dire qu'on fixe notre attention sur nos difficultés, sur ce qui nous manque. Et alors, dans ce cas-là, notre vie risque d'être assez pénible, et si nous nous concentrons sur ce côté de vide et de négatif. Par contre, si nous regardons le verre à moitié plein, eh bien alors cela voudra dire que nous portons nos attentions sur ce que nous avons, sur ce qui nous comble, et dans ce cas-là, nos jours risquent alors d'être plus agréables. Est-ce que dans notre psaume de ce jour, David regarde son verre à moitié vide ou à moitié plein? Le Saint-Esprit veut-il que nous regardions notre vie comme un verre à moitié vide ou à moitié plein? Le côté positif d'un côté, le côté négatif de l'autre. Le côté négatif qui devrait combler le positif, ou plutôt le contraire. En réalité, donc, ce n'est ni l'un ni l'autre. La parole de Dieu nous offre beaucoup mieux que la sagesse populaire. Le Saint-Esprit, en fait, veut nous donner un regard complètement différent sur notre vie, sur notre façon de vivre, sur la qualité de l'eau que nous avons en nous, la quantité que nous avons en nous. Alors voyons un petit peu le côté vide, si on garde encore un petit peu cette image, le côté vide du verre. Mais la Bible nous dit que le vide est encore plus vide que ce qu'on pourrait croire. La Bible nous dit que l'existence humaine est sombre et éphémère. On l'a lu là dans le psaume. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, le vent passe sur elle et elle n'est plus. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Voilà, cet côté éphémère de la vie, où tous les jours nous avons des deuils à faire, des deuils sur notre jeunesse, sur notre forme, sur notre force, sur notre mémoire, puis les deuils des personnes que nous perdons. Et puis l'homme de Dieu aussi est dans un combat. On est dans un combat quotidien contre le péché qui est tapis à notre porte et qui tente à nous éloigner de Dieu, mais aussi le combat contre le doute, le combat contre les attaques de l'ennemi. Et cet ennemi très insidieux, il peut nous attaquer au travers des membres de notre famille, mais aussi de nos collègues, de nos voisins, de nos amis. Paul dit ceci dans Timothée, « Rappelle-toi bien ceci, dans les derniers jours, il y aura des jours difficiles. Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats, sans respect pour ce qui est saint. Ils seront traîtres, emportés et enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. » Voilà, donc cette partie de notre existence, en fait, qui est presque toute notre existence, nous dit la Bible, ça ne va pas être contrebalancé par des choses positives, si on peut dire. Mais plutôt, Dieu va venir en présence, dans sa présence, avec nous, dans tous ces moments de notre vie, dans notre quotidien. Il va nous dire, je suis avec toi. Et ainsi, il transforme la réalité, notre réalité et notre quotidien. Alors, je vous propose une autre image. Oui, peut-être juste avant celle-là. Si la réalité de notre monde, pense à ce verre à moitié vide, à moitié plein, quelle image, nous, on pourrait retenir en tant que chrétien? Alors, moi, ça m'a donné l'idée, est-ce que l'image de notre vie pourrait pas être comme un verre rempli de glaçons, avec de l'eau dedans aussi, au bord d'une belle piscine. Alors je m'explique, le verre ça pourrait être notre vie. Les glaçons c'est les moments difficiles de notre vie, nos soucis, nos blessures, mais l'eau c'est le Seigneur qui vient sur les glaçons et qui est aussi dans la piscine immense, l'amour de Dieu qui est autour de notre quotidien et de ces glaçons. Et par sa présence, on sait que nos glaçons, nos difficultés vont fondre. Quand on regarde à notre vie passée, je suis sûre que vous serez d'accord avec moi, il y a des choses de notre vie, on en a fait des montagnes, on était un peu perdu face à ces montagnes que nous devions affronter, et puis, ça a fondu. Dieu a fait en sorte qu'aujourd'hui, ces soucis-là ont fondu. par sa présence, par son amour. Alors, je vous propose cette deuxième image. La Bible, en fait, en quelque sorte, nous invite à changer, en fait, notre façon de voir et de passer, du coup, d'une vision de notre vie qui peut être anthropocentrique, c'est-à-dire nous mettre au centre, comme cette image du monde, croire que nous sommes au centre du monde. Ou sinon, la deuxième façon de voir, c'est de dire, voilà, c'est Dieu qui est au centre de toute chose. Donc nous avons un petit peu le choix. Si nous comprenons notre humanité en nous plaçant donc au centre de ce monde, voilà, que tout doit tourner autour de nous, eh bien nous attendons à ce que le monde en fait bien s'occupe de nous, que les circonstances de nos vies doivent faire notre bonheur. Hein. Et puis dans ce cas-là, eh bien je compte ce que j'ai, ce que je n'ai pas. Et puis, je me compare aux autres aussi, ben, ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas. Et Dieu, alors, dans ce système-là, eh bien, est à notre service. Il doit être à notre service. Oui, Seigneur, je t'ai demandé ça, fais ça pour moi. Voilà, ça c'est une façon. Fais mon bonheur, c'est une façon de voir notre vie. Et la deuxième façon de voir notre vie, c'est Dieu au centre. Voilà, c'est plutôt choisir, en fait, de mettre Dieu à la première place, Dieu au centre, et nous, nous considérer, voilà, comme à notre place, comme ses créatures, comme ses enfants chéris. Et nous faisons partie bah, de son grand plan d'amour, un plan qui nous dépasse, un plan avec des choses visibles, mais aussi des choses invisibles, des choses que nous comprenons et des choses que nous ne comprendrons pas sur cette terre. Et dans ce plan, c'est voilà, c'est nous qui sommes au service de Dieu, et c'est pas lui qui va être à notre service. Et David, c'est ce qu'il a fait en fait dans toute sa vie. Il a toujours mis Dieu à la première place. Et c'est pour ça qu'on a ce beau psaume ce matin, parce que quoi qu'il arrive, il dit à son âme, moi, je veux louer le Seigneur. Je veux que mon âme, vas-y, bénis le Seigneur. C'est la meilleure des choses à faire, de le reconnaître et de l'appeler en quelque sorte dans notre quotidien, dans son quotidien. Donc si je reprends un petit peu le psaume, il énumère donc, il demande à son âme, vas-y, loue, reconnais mon âme. Et il énumère 7 bienfaits de Dieu. Donc je vais revoir le psaume rapidement pour noter ces 7 bienfaits. Alors le premier, c'est qu'il vient 3 fois, c'est vraiment le pardon. Et il dit déjà, alors que Jésus n'était pas là, hein, « Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. » Et plus loin, Dieu ne nous tient pas compte de nos péchés, enfin, tient pas compte à sa juste force de nos péchés, il nous pardonne. Voilà, donc Dieu veut que nous vivions une vie sans culpabilité. Il est prompt à nous pardonner. Deuxième chose, il nous guérit et nous arrache à la tombe. Il a un plan éternel pour nous et notre corps aussi aura une place, a une place et sera renouvelé. Il nous délivre de nos ennemis. Le mal ne triomphera pas. Dieu a un plan pour tout ce qui nous arrive et le mal ne triomphera pas. Il nous fait justice. Dieu voit nos combats et comme un bon père, il intervient et il interviendra pour nous défendre. Cinquièmement, il permet que nous rajeunissions. Hein, et si notre corps, ben, physiquement, oui, on se flétrit, mais intérieurement, eh bien, on rajeunit. Je ne sais pas si vous vivez ça, mais au contact avec Dieu, voilà, par les fruits de l'esprit, par sa présence, il nous permet d'être comme l'aigle, c'est-à-dire de voir en hauteur, de voir différemment, de voir mieux ce qui nous arrive, et avec lui, et du coup, notre intériorité rajeunit. Il nous trace un chemin, comme on l'a dit. Et en effet, comme il a tracé un chemin à Moïse aussi, nous sommes assurés qu'il nous trace un chemin pour nous, jusqu'à la vie éternelle, jusqu'à sa gloire, jusqu'à ce qu'on le rencontre. Et puis la dernière chose, le 7e point, je ne les ai pas classés dans l'ordre comme ça, parce que on voit que ce 7e point, c'est montrer que David s'appuie sur cette présence bienveillante de Dieu. Et on voit au verset 4, par exemple, « C'est lui qui te couronne d'amour et de tendresse. Verset 8, l'Éternel est compatissant et miséricordieux, il est plein de patience et débordant d'amour. Verset 13, et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse. Verset 17, l'Éternel, l'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours. Voilà, c'est scandé par son amour. Donc on a vraiment le privilège d'être aux côtés d'un roi, d'un Dieu puissant. Et ses actions dans notre vie, voilà, vont répondre à vraiment ce que nous vivons à l'intérieur, vont répondre à nos soucis quotidiens, à tout ce qui se passe en nous. Dieu a une réponse intérieure. Et on sait que, voilà, quand on est mieux intérieurement, quand on est assuré, quand on est en paix, eh bien après, on pourra affronter ce qui nous arrive avec beaucoup plus de force, avec sa paix, avec sa joie. Alors David ne nous dit pas que c'est une attitude facile hein, de regarder constamment à Dieu comme ça, et c'est pour ça que dès le début du passage, en hébreu on a un verbe qui est à l'impératif. C'est « Allez, vas-y mon âme, fais-le, bénis l'Éternel ». Voilà, il s'auto-exhorte en fait par cet impératif à se décentrer de lui-même pour avoir une attitude et même une habitude de vie qui va être de reconnaître ses bienfaits. Et cette attitude de reconnaissance, c'est la marque du croyant, c'est la marque du chrétien. On le vit dans beaucoup de passages de la Bible. Soyez reconnaissants, et j'y reviendrai. J'aimerais partager encore avec vous une image. Cet été, nous étions en vacances, et j'espère que vous avez pu aussi avoir des vacances. Et peut-être vous êtes allé à l'étranger, ou peut-être, en tout cas, ce que je suis sûre, c'est que vous avez vu des étrangers ici à Cannes. Et c'est intéressant de voir les différences de culture entre des habitants de différents pays. De différentes régions, hein, il y a eu des films hein, sur ça, les différentes façons de vivre. Les Suisses, par exemple, ils parlent avec un accent. Et ils vont sortir un billet de 100 euros pour payer un beignet. Alors vous avez jamais vu un billet de 100 euros. Et puis chez eux, vous n'avez pas intérêt hein, à traverser la route quand le feu, il est rouge, hein, que le petit bonhomme, il n'est pas vert, hein, sinon il vous attrape par derrière, hein, il vous tire comme ça. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais enfin, je me moque pas des Suisses, je suis Suisse aussi. voilà, alors les Belges. Alors là, je prends pas l'accent belge, même si je suis belge aussi, mais Emmanuel Alvarez aurait fait ça beaucoup très bien. Les Belges, voilà, ils aiment les gaufres, par exemple. Alors, je sais pas si vous savez qu'il existe, bon, alors les gaufres rondes, les gaufres carrées, et il existe aussi les gaufres molles, ça s'appelle. Et c'est très très bon les gaufres molles. Donc ils sont très fiers de leurs gaufres. C'est une marque, une caractéristique de leur pays, les gaufres, les frites. Et puis si vous visitez aussi Bruxelles, eh bien, il faudra aller voir la petite statue, si vous connaissez, la petite statue du monsieur qui fait pipi. Voilà, ils sont très fiers de leur petite statue. Alors peut-être vous avez rencontré aussi des Américains ou des personnes plutôt anglophones. Et puis alors vous alliez vous projeter pour leur faire une bise. Puis vous sentez que ils vont pas trop vous faire une bise. Hein. Ils sont plutôt pour vous faire un hug, un peu comme ça, voilà. Bon, voilà, c'est un peu des généralités. Je veux pas caricaturiser, voilà, méchamment. Hein. C'est juste pour nous montrer, voilà, que selon les pays, selon les lieux, il y a des façons de faire. Et alors où est-ce que je veux en venir? Eh bien, c'est que le chrétien. C'est quoi sa caractéristique? C'est quoi son pays et les caractéristiques de son pays? Alors on a chanté qu'il y avait un drapeau, un étendard. Je brandis l'étendard. Hein. C'est vrai que c'est intéressant. On n'a pas de drapeau de notre pays chrétien, de la patrie céleste. Pourtant, voilà, nous venons nous aussi d'une patrie, de cette patrie céleste. et Paul en parle plusieurs fois, notre domicile est de nature céleste, dit-il en 2 Corinthiens. Et par exemple aussi, Jésus dit dans sa prière dans Jean 17, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je ne leur appartiens pas, je ne lui appartiens pas. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envoie. » Donc, nous appartenons vraiment à cette patrie céleste. Et nous sommes, comme dit Paul, hein, nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Et nous sommes là pour un temps, en attendant de rejoindre notre patrie céleste. Et en attendant, ben, Paul continue et dit, nous sommes dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ. Voilà. C'est un super job, hein. Nous sommes ambassadeurs de cette patrie céleste. Nous sommes rois, reines, prophètes, déjà dans ce pays-là, mais nous sommes juste envoyés pour un temps ici, avant de repartir. Alors, quand vous voyez un Suisse dans la rue, quand vous voyez un Belge dans la rue, un Américain dans la rue, bah, vous le reconnaissez, non? Alors, comment reconnaît-on vraiment le chrétien? Hein? Comment être visible? Comment être le sel de la terre? Comment être la lumière du monde? Eh bien, par plusieurs choses, hein, et nous l'avons déjà vu. Peut-être la première, ben, c'est ce que j'ai dit, c'est de prendre conscience qu'on appartient à cet pays. Prendre conscience qu'on a une identité spéciale. Et que, voilà, on est enfant de ce Dieu tout-puissant. On est enfant de cette patrie qui est là et qui vient. La deuxième chose, eh bien, c'est qu'on va être différent et celle de la terre parce que on n'a pas la même vision de ce monde, de la réalité de ce monde, des difficultés, de ce qui arrive, du plan de Dieu, de voilà, ce verre à moitié plein ou pas. Non, c'est pas notre façon de voir. La troisième façon d'être voilà, ce sel de la terre, c'est eh ben de vivre pleinement cette identité, cette nationalité. Cette double nationalité, en tout cas, mais surtout celle d'en haut, et de la vivre par la reconnaissance. Hein. Dire, voilà, moi, j'ai mon Dieu qui est avec moi. Je l'aime, il m'aime, il y a une relation. Voilà, dire les caractéristiques de notre Dieu. Moi, il me pardonne, moi, ça marche comme ça, avec lui. Voilà. Donc, ces caractéristiques, et c'est, il y en a plusieurs, hein. J'ai parlé, bon, de la reconnaissance parce que c'est du jour, mais c'est aussi la prière, c'est aussi le pardon, c'est aussi donner, c'est aussi le jeûne, c'est, voilà, quand on a peur, on va voir les oiseaux, voilà. Il y a différentes caractéristiques du chrétien, mais voilà, aujourd'hui, je pense à la reconnaissance. Pensons à cette reconnaissance parce que nous avons tout avec notre Dieu. Et je vous lance un petit défi ce matin de vivre, voilà, d'entrer, de se dire, voilà, cette nouvelle année qui commence, eh bien, je veux encore être un citoyen du ciel et entrer pleinement dans la reconnaissance. Que ce soit mon mode de vie, voilà. Alors, on peut être reconnaissant déjà de ce que Dieu a fait pour nous, ou après chaque événement que nous allons passer, hein, être reconnaissant après l'événement, c'est assez facile, on peut dire, hein. Quand l'orage est passé, lorsque Dieu, j'ai été protégé, lorsque Dieu a exaucé ma prière, lorsque, voilà, c'est plus, assez facile cette reconnaissance, hein, je dis pas que, voilà. Mais ça demande de s'arrêter quand même, après chaque victoire, après chaque petit pas, après chaque glaçon qui a fondu, voilà, s'arrêter pour être reconnaissant. Et par exemple, Moïse, dans le désert, quand il a traversé la mer Rouge avec le peuple, une fois qu'il est arrivé de l'autre côté, les Égyptiens, ils étaient dans le creux de la mer, et puis l'eau s'est refermée. Et arrivé de l'autre côté, eh bien, Myriam a pris les tambourins, et ils ont pu... voilà, prendre un moment de reconnaissance après cette épreuve-là, de cette sortie d'Égypte. Et ça leur a, ça a impliqué, voilà, qu'ils s'arrêtent, hein. Sachons, voilà, nous arrêter aussi après des victoires, des exaucements, des belles choses dans notre vie pour être reconnaissant. Et puis, on peut choisir aussi d'être reconnaissant au cœur de nos difficultés. Parce que, cette année que nous allons vivre, il y aura peut-être des hauts et des bas. Mais se dire, voilà, moi, je veux faire le choix d'être reconnaissant au cœur de l'épreuve. Si je traverse, voilà, une crise financière, un chômage, des problèmes de couple, les ados, la maladie, des parents âgés souffrants, voilà. Je choisis d'être reconnaissante envers Dieu quand même. Voilà. De me confier à lui. Il a un plan. Il sait toutes choses. Et toutes ses bontés, les sept, vont être encore là pour moi, au cœur de cette épreuve. Et là, il y avait Job qu'on a cité, mais il y a aussi, je voulais vous parler rapidement de Jérémie, le prophète Jérémie dans l'Ancien Testament. Jérémie, il a vécu un drame énorme, un traumatisme total. Il vivait dans Jérusalem quand la ville s'est faite assiéger par les Babyloniens et il y a eu un siège avec des morts, énormément de morts, et il est même dit qu'il y avait des cas de cannibalisme, parce qu'ils n'avaient plus à manger, ils avaient à boire, mais ils n'avaient plus à manger. Et donc, il y avait des mères, là, qui faisaient cuire la chair de leurs enfants pour s'en nourrir. Et donc, ce prophète, vraiment, il est traumatisé, il pleure, il invoque Dieu, et Dieu ne va pas répondre parce que la ville a été déjà sauvée plusieurs fois, mais cette fois-là, elle ne va pas être sauvée. Et lui-même, on en prend à sa vie. On le met dans une citerne, et l'eau monte, hein, et il a failli mourir aussi. Et il dit, au milieu de cette épreuve, un verset que sûrement vous connaissez tous, « Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. » Oui, ta fidélité est grande. Hein, c'est ce verset, « Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. » Eh bien, c'est lui qui le dit, en plein milieu vraiment d'une épreuve inhumaine. Voilà, et il le dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent, il l'a vécu, et puis en effet, les bontés se sont en effet renouvelées, hein, puisque le peuple, bien qu'il ait été déporté, Dieu est venu en déportation avec lui, et puis il a pu revenir, et aujourd'hui, hein, depuis 1948, le peuple d'Israël est revenu à une terre. Donc les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas. Et puis, une dernière chose aussi, on peut être reconnaissant après chaque épreuve, pendant chaque épreuve, mais aussi avant. Avant. Et donc, c'est-à-dire aujourd'hui. Hein, enfin, si on n'a pas d'épreuve aujourd'hui, ben voilà, on peut être complètement reconnaissant dès aujourd'hui. Et dire à mon âme, oui, je proclame la victoire du Seigneur sur ma vie. Je proclame la victoire du Seigneur sur mes enfants. Je proclame que Dieu va me conduire, qu'il y aura une solution, que dans voilà toute l'année, il y aura des exaucements. Dieu va être là à chaque étape de ma vie. Et on peut penser à Jésus dans cet exemple, hein, qui est l'exemple suprême. Jésus qui savait... Hein, ce qu'il allait vivre, eh bien, il a été reconnaissant. Et il est allé sur la croix souffrir, être humilié, battu, crucifié, mais en vue de la joie de nous sauver, en vue de la joie de voir un peuple sauvé par son acte, de nous avoir pardonné nos péchés. Il était souffrant sur cette croix, mais le cœur rempli de joie. Et c'est toujours intéressant de voir le contraste un petit peu entre les disciples et les femmes qui étaient au pied de la croix en train de pleurer parce que pour eux c'était la fin. Et puis Jésus qui lui, c'est la joie parce que c'est la victoire sur le mal et il pourra dire tout est accompli. Hein. Donc c'est un petit peu cette idée de que notre reconnaissance, eh bien on va la faire par la foi, on ne voit pas mais on sait qu'il y aura autre chose, que Dieu va pourvoir et toujours va nous accompagner, nous entourer. Donc, concrètement, comment être reconnaissante? Eh bien, peut-être faire comme David, simplement parler à notre âme, hein, et lui dire, voilà, mon âme, je veux te dire, ne regarde pas aux circonstances, mais crois que Dieu va t'accompagner cette année. Dieu va être prompt à te pardonner, te guérir, te délivrer, hein, parce qu'il t'aime d'un amour immense. Mon âme, ne crains pas, Dieu va te faire justice, et il va te rassasier, il va te combler. N'aie pas peur, Dieu va pourvoir mon âme. Mon âme, crois-tu cela? Veux-tu croire cela? Mon âme, ressaisis-toi. Vas-y, loue le Seigneur maintenant. Amen. Je t'invite à un moment de silence et puis je prierai après. Oui Seigneur, merci parce que tu connais tout de nous et tu nous aimes comme nous sommes, éphémères et pas très doués. Merci parce que tu es là et que nous savons que sans toi nous ne pouvons rien faire. Tu es là et nous voulons nous fortifier parce que nous voulons vraiment prendre conscience toute cette année qui vient que tu vas être là, que tu es là, que tu as des solutions, que tu nous aimes et que nous avons déjà acquis dans les cieux ce statut d'enfant de Dieu, de roi, de reine à ton service pour un temps sur terre. Oui Seigneur, merci pour ce plan que tu as et pardonne-nous quand nous ne comprenons pas parfois, que nous râlons. Mais oui Seigneur, merci parce que tu nous prends par la main toujours. Au nom de Jésus, amen.